voilà, merci beaucoup Esther Ndalafina pour ces nouvelles. Ça se passe près de chez vous. Nous étions donc à Mbujimayi. Nous saluons tous les auditeurs qui nous suivent à Mbujimayi ou à Balengela où il est 7h à présent, moins 1h à Kinshasa.
Radio Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, levé ou non de l'état de siège, le président Félix Tshisekedi consulte les animateurs des institutions après les avis des délégués à la table ronde sous la suite à donner à ses assises. Se sont retrouvés hier lundi ici à Kinshasa autour du chef de l'État, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le président du Sénat et le premier vice-président de l'Assemblée nationale ainsi que le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta. Justice début hier lundi à la Cour constitutionnelle ici à Kinshasa du procès sur la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. La première audience a été remise au 4 septembre prochain par le fait que l'ancien premier ministre Matata Mponyo et Christophe Grobler, patron de la firme sud-africaine Africom, n'ont pas été régulièrement saisis par la citation à prévenu. L'invité de ce journal est le secrétaire exécutif provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNLMLS Tanganyika. Docteur Didier Kahenga explique l'importance du plaidoyer de ce programme sanitaire sur l'intégration du VIH-Sida dans les activités humanitaires de la province du Tanganyika. À présent, les détails. Bonjour et bienvenue. Le président de la République veut avoir les avis des chefs des institutions, notamment sur l'état de siège, après celui des délégués à la table ronde sous la suite à donner à ses assises. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les a réunis hier lundi à la Cité de l'Union africaine ici à Kinshasa afin de partager avec eux quelques questions importantes de la vie nationale. Il s'agit entre autres de la situation sécuritaire et du processus électoral. On prépare à cette rencontre le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le président du Sénat Bahati Lukwebo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata et Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle. On écoute le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui fait la restitution de cette réunion dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de convoquer ce cadre informel, qui se dit cadre interinstitutionnel, où le Président a le loisir de consulter en fait les institutions sur les questions importantes de la nation. Aujourd'hui, c'est agi principalement des questions sécuritaires, parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays, et ce sont des questions qui lui sont chères, et une évaluation un peu des processus dans lesquels nous sommes engagés, tant celui processus de paix de Nairobi, que les engagements que nous avons avec la vérification de Luanda, mais tout ceci bien sûr avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège, qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui. Et donc, aussi une revue par rapport à cette question-là de l'état de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral.
Et dans la province de la Tshopo, le commissaire de la PNC appelle les éléments de la police de son ressort à redoubler de vigilance pour bien sécuriser la population. Le commissaire divisionnaire adjoint François Kabea Makosa a lancé cet appel hier lundi à Kisangani au cours de sa première parade tenue au camp central de la police. Une occasion pour lui de rappeler à ses hommes la mission de la police, celle de sécuriser la population et les biens. Et à la population, il souhaite une franche collaboration avec la police. Le commissaire divisionnaire adjoint François Kabea Makosa résume son adresse au micro de Jacques Moukonkolé.
J'ai appelé les policiers à éviter la tracasserie ainsi qu'à éviter la violence pendant l'exécution de certaines missions leur confiées ou bien pendant l'exécution des mandats. Ils doivent prendre les attitudes humaines, ils doivent éviter la violence. Ils doivent normalement respecter les droits de l'homme. Ceux qui vont ou celui qui va s'exposer, je ne ménagerai aucun effort pour le déférer devant la justice. On ne peut pas sécuriser quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. La population doit normalement nous informer de tout cas. De toute personne suspectée ou d'une situation ambiguë constatée, faire rapport à la police. J'ai aussi demandé aux policiers pour leur dire qu'ils sont les premiers agents de renseignement aussi dans leur quartier. Nous devons toujours vivre avec la population. Comme un ancien général l'a dit, vivre avec la population comme les poissons dans l'eau. Les poissons ont besoin de l'eau, l'eau a aussi besoin de poissons. Donc c'est cette collaboration-là que nous attendons de la population. Et la population attend de nous maintenant la sécurisation. Par des patrouilles, par des tournées, répondre aux SOS faites par la population. Et nous devons être là à tout moment et dans un bref délai quand la population nous appelle.
Justice début hier lundi à la Cour constitutionnelle ici à Kinshasa du procès sur la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. L'ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo, représenté par ses avocats et ses co-accusés Grobler Christo, patron de la firme sud-africaine Africom, et Deogracias Mutombo Nyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale, ont comparu à la première audience. Celle-ci a été remise au 4 septembre prochain. Des détails avec Jeff Ngoy.
La remise de cette audience se justifie par le fait que Matata Mponyo et Christo Grobler n'ont pas été régulièrement saisis par la citation à prévenir. Le juge président de la Cour demande ainsi au greffe de relancer la procédure afin de la régulariser. Et la défense salue ce comportement du juge, d'après qui l'huissier de justice n'a pas pu atteindre les deux prévenus à la date du 11 août. L'ancien premier ministre est poursuivi pour détournement présumé de plus de 250 millions de dollars dans la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est le 10 juillet dernier que le procureur général près la Cour a émis un deuxième mandat de comparution à l'endroit des sénateurs et ses complices présumés. Il découle de son réquisitoire adressé au Sénat le 20 juin qu'il détient des éléments nouveaux dans cette affaire. Mais trois jours après ce réquisitoire, Matata réquisera à son tour Jean-Paul Mukolo et le président du Sénat en déposant des plaintes contre eux à la Cour de cassation. Pour l'instant, le président du parti Leadership pour la gouvernance et le développement poursuit ses vacances parlementaire dans sa circonscription électorale de Kindu. Selon sa défense, il n'est pas en train de fuir la justice et il serait prêt à répondre à toute convocation s'il est régulièrement saisi afin de démontrer son innocence.
D'autre part, Reporters sans frontières est inquiet des attaques contre les journalistes en RDC à quelques mois des élections. RCF note dans une tribune publiée hier lundi que les manifestations politiques de la période préélectorale ont entraîné une recrudescence des attaques contre les journalistes en République démocratique du Congo. Reporters sans frontières appellent les autorités et les acteurs politiques à prendre des mesures immédiates pour protéger le travail des médias, essentiel au processus démocratique. D'autres détails avec vous, Alain Hirung.
RSF indique que depuis juillet, au moins 7 journalistes ont été attaqués par des acteurs politiques de tous bords, établis dans la capitale Kinshasa ou à Kananga, au centre de la République démocratique du Congo. L'un d'eux, par exemple, doit répondre à la justice à la suite d'une plainte pour diffamation émanant d'un homme politique. Ces incidents mettent en lumière un contexte préélectoral tendu qui compromet la sécurité des journalistes. Les élections générales sont prévues le 20 décembre prochain. Chaque jour compte son lot de violences contre les journalistes en RDC. C'est devenu très inquiétant, d'autant que certaines attaques sont le fait d'acteurs politiques ou de leur soutien. À 4 mois des élections, la classe politique doit respecter le rôle crucial des médias. Pour prévenir et empêcher tout type d'attaque contre les journalistes, RSF invite les autorités à émettre et diffuser largement une déclaration publique à l'ensemble des candidats et partis en lice, ainsi qu'aux forces de l'ordre pour rappeler que les médias et les journalistes sont essentiels au processus démocratique et que quiconque porte atteinte à leur intégrité ou entrave leur droit d'informer et celui des citoyens à être informés devra faire face à la loi, a précisé Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF.
Et puis, au Nord Kivu, aucun dossier de candidature pour les conseillers communaux n'a été déposé à ce jour au bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI dans la ville de Beni. C'est le chef d'antenne locale de la CENI qui l'a dit hier lundi à Radio Kapi. Deogracias Mbayayi déplore également le manque d'engouement à la députation provinciale à 24 heures de la clôture des opérations. On l'écoute au micro de Sadiki Aboubakar.
Sincèrement, je peux dire que oui, nous avons déjà reçu un certain nombre de dossiers. Ce n'est pas beaucoup. À la veille, nous constatons qu'il n'y a toujours pas vraiment d'engouement aux mandataires des partis politiques, aux candidats indépendants de venir, parce qu'il ne nous reste que un jour. Demain, mardi 22, le dernier jour, après nous commençons la période de 5 jours que nous appelons période de substitution. Ce n'est pas dans les 5 jours jour qu'on viendra déposer les dossiers. Ce ne sont que ceux qui ont déjà déposé qui peuvent venir ajouter, soit substituer, soit retirer un candidat. Pour ce qui est de dépôt de candidature pour les communaux, il n'y a pas encore aussi de dépôt. Nous rappelons que effectivement les élections locales sont prévues et auront lieu.
Alors quand vous dites que les candidatures pour les communaux, il n'y en a pas, c'est parce qu'il n'y en a pas encore jusque-là ou bien il n'y en a pas assez?
Non, il n'y en a pas encore.
En Ituri, plus de 70 personnes ont été opérées gratuitement des fentes labiales, plus connues sous le nom de bec de lièvre, à l'hôpital général de référence de Bounia. C'était lors d'une campagne de réparation conjointement organisée en partenariat avec l'ONG Samaritan Spurs. Ces interventions chirurgicales qui se sont achevées le week-end dernier à Bounia visaient à aider les malades dans l'impossibilité à honorer les frais de cette chirurgie généralement très coûteuse. Des détails avec Jean-Claude Lokidile.
C'est précisément 71 personnes, en majorité des enfants, qui ont été opérées par une équipe de médecins spécialistes en chirurgie. Après avoir tenté plusieurs fois de faire opérer sa fillette d'une année et demie de fente labiale, Ezekiel Ngoyi est fier de revoir son enfant reprendre le sourire.
L'enfant est né avec une malformation. Bon, nous aussi, on avait presque honte. Quand on voyait les gens venir nous visiter, Dieu a fait grâce. L'enfant se porte bien, elle mange, elle s'amuse. Et la joie est même rentrée dans la famille avec ses grandes sœurs, ses grands frères.
Une malformation qui souvent empêche l'enfant de bien téter et déforme son visage. Certains parents disent avoir été contraints d'éloigner leurs enfants loin au village pour les mettre à l'abri de moqueries de certains habitants, surtout dans des milieux urbains. Orly Koubi est médecin superviseur de santé et nutrition à Samaritan Purse.
Les parents qui ont des enfants avec la malformation là n'ont pas le moyen de se permettre le soin de leurs enfants. Nous avons pensé à venir au secours de ces enfants là afin de pouvoir réparer cette malformation.
Certains malades sont venus des provinces du Haut et Bas-Uele aux frais de Samaritan Purse. Le gouvernement provincial de l'Ituri a pour sa part exonéré les équipements qui ont servi à opérer ces malades.
Retour au Nord Kivu, dans le territoire de Beni, où 4 tonnes de pommes de terre ont été produites cette saison sur 1 hectare de champ pilote à Mutwanga, 45 km de Beni. Ce champ, une initiative locale de la communauté constituée majoritairement des jeunes, est à sa 2e saison de production. Le responsable de cette initiative encourage les jeunes à se lancer dans l'agriculture pour lutter contre la dépendance agricole et améliorer ainsi la qualité de l'alimentation de la population dans la région de Beni. Des précisions avec Marc Marofimbo.
Situé à 3 km du massif de Rwenzori, les champs pilotes de la jeunesse de Mutwanga est à sa 2e saison de production. C'est le résultat de la calmie observée dans la région qui a motivé la population à reprendre le chemin des champs situés dans la profondeur de la forêt. Le responsable de cette initiative locale indique que l'objectif est de lutter contre la dépendance agricole et améliorer les conditions d'alimentation de la population dans la région de Beni. Meleki Mulala.
C'est un champ pilote qu'on appelle champ essai. Nous avons la variété Carolis qui nous vient de Butembo. Notre chaque pilote est d'un hectare et nous produisons au moins 4 tonnes. Donc la saison prend 3 mois et demi pour produire 4 tonnes dans 1 hectare. Avec 6 pommes de terre, on est à mesure de faire 1 kg qui coûte 1500 francs au niveau de Mutwanga. Nous sommes en train de sensibiliser la population pour que cela soit partout dans la communauté. Nous produisons vraiment pour lutter à la dépendance agricole. Et tout le monde est convaincu que avec 1 hectare, facilement, quelqu'un peut trouver 3 000 $, soit 2 000 $ dans 3 mois.
Meleki Mulala encourage les jeunes à s'approprier cette initiative qui vise non seulement à réduire les taux de chômage dans la cité de Mutwanga, mais surtout à encadrer la jeunesse. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
En bref, au sud Kivu, l'ascension au mont Kahuzi, le plus haut sommet du parc national de Kahuzi-Biega au sud Kivu, fait partie des activités phares du parc. Une dizaine de visiteurs font cette activité chaque semaine. Activité qui demande beaucoup d'énergie, mais reste une belle découverte pour les visiteurs, avec la végétation qui mène au sommet de cette montagne. À l'occasion d'une visite au Penkaibe dimanche dernier, notre reporter Rachel Kessembangou va vous présenter dans les éditions qui suivent cette activité.
Actualité internationale.
Le rejet par la CEDEAO d'une transition politique de 3 ans au Niger se précise. C'est ce qu'a déclaré hier lundi un commissaire du bloc régional à la presse internationale, Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, a rejeté la proposition faite samedi par la junte pour rendre le pouvoir aux civils dans un délai de 3 ans maximum. Cependant, l'organisation ouest-africaine n'a pas encore statué officiellement. République centrafricaine, la Cour pénale internationale se penche sur les nombreuses charges pesant sur l'ex-chef des opérations militaires des anti-Balaka. Les audiences des confirmations de charges portées contre l'ex-milicien Maxime Mokom débutent ce mardi à la CPI. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2013 et 2014.
L'invité
de ce journal est le secrétaire exécutif provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS Tanganyika. Docteur Didier Kainga explique l'importance du plaidoyer de ce programme sanitaire sur l'intégration du VIH-Sida dans les activités humanitaires de la province du Tanganyika. Docteur Didier Kainga s'entretient à Kalemi avec Paul Mounanga.
Docteur Didier Kainga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Pourquoi ce plaidoyer pour l'intégration du VIH-Sida en situation de crise humanitaire dans la province du Tanganyika?
Évidemment, messieurs les journalistes, ce plaidoyer au niveau du Tanganyika en collaboration avec le partenaire Yaounou Sida, HCR, PAM et OCHA, y compris aussi les autres structures étatiques, c'est qu'on a trouvé au niveau du Tanganyika qu'il y a un nombre élevé de déplacés internes suite au conflit qui sévit depuis 2016. Et c'est comme ça, nous, coordination PNMLS, avec le partenaire, l'on a pensé à intégrer le VIH-Sida dans cette crise humanitaire qui sévit au Tanganyika. Et pourquoi? Parce qu'il y a des populations internes qui se sont déplacées d'une zone vers une autre. Il y a aussi des populations qui ont quitté d'autres provinces telles que le Maniema vers le Tanganyika et qui vivent dans la promiscuité.
Et ce plaidoyer est fait auprès de qui exactement?
Ce plaidoyer est fait auprès de partenaires de la lutte contre le VIH et SIDA. Parmi ces partenaires, il y a HCR qui a le lead de ses activités. Il y a aussi OCHA, y compris aussi les PAM qui est les collide dans ses plaidoyers.
Comment est-ce que le VIH-Sida impacte sur la crise humanitaire dans la province du Tanganyika?
Bien sûr, messieurs les journalistes, le VIH-Sida a un impact sur la crise humanitaire au niveau du Tanganyika. Comment ça? Premièrement, lorsqu'il y a une population déplacée et que cette population vive dans une situation de promiscuité, il y a possibilité, il y a probabilité que cette population puisse se transmettre le VIH. Imaginez, il n'y a pas de contrôle, cette population qui s'est déplacée suite à un conflit, suite à une guerre. Et quand il y a la guerre, il y a tout ce qui peut arriver. Il y a les violences basées sur le genre, il y a les violences sexuelles, il y a aussi d'autres conflits. Et par conséquent, il y a la contamination du virus d'une personne malade vers une personne saine. Et avec ça, comme on a vu qu'il y a un taux élevé de déplacés internes, c'est comme ça que nous, l'on a pensé à intégrer et faire ces plaidoyers.
Et comment est-ce que les agences humanitaires qui sont vos partenaires pourraient intervenir pour assister les personnes vivant avec le VIH-Sida?
Le partenaire OCHA a un plan par rapport à l'intégration du VIH dans les actions humanitaires parce que c'est OCHA qui a les leads par rapport à la gestion des actions humanitaires au niveau pays et même au niveau du Tanganyika. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce plan, après atelier, sera partagé avec des orientations qui seront données et sur base de ces orientations, un plan sera effectué et sera partagé au niveau de la province du Tanganyika auprès des autorités politico-administratives et auprès de partenaires de la riposte VIH au niveau du Tanganyika. Et après, comme il y aura des recommandations, ce plan sera suivi par la partie étatique et nous sommes PNMLS dans la coordination, y compris aussi ONU-SIDA.
Et y a-t-il un mécanisme qui va vous permettre de détecter les personnes vivant avec le VIH-SIDA, notamment dans des villages, pour les mettre sous traitement des ARV?
Évidemment, c'est déjà connu et ça s'est fait déjà. Il y a FOSA, la formation sanitaire qui travaille déjà sur ça depuis longtemps. Comme vous le savez, au niveau des Tanganyika, il y a des structures qui ont déjà intégré les activités ou le paquet VIH. Et quand vous avez des sites de déplacés dans une contrée et dans ces sites se retrouvent dans les aires de santé où il y a déjà les activités VIH. Et nous, PNMLS, y compris le PENSER. Nous travaillons en collaboration, c'est dans la multisectorialité, associé aussi le PRONANUT, le programme national de nutrition au niveau provincial. Nous nous mettons tous ensemble pour faire cet exercice. Et l'exercice par rapport au VIH, c'est une prise en charge holistique. Il faut arriver à détecter, à faire la sensibilisation au niveau du camp de déplacés ou les sites de déplacés au niveau interne. C'est un travail qui avait déjà été fait récemment d'ailleurs avec le financement de l'ONU SIDA. On a eu à détecter, à faire une cartographie au niveau provincial en collaboration avec la division des affaires humanitaires au niveau provincial. On a trouvé qu'il y avait des sites de déplacés dans tous les territoires du Tanganyika.
Docteur Didier Kayenga, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci, messieurs les journalistes.
L'invité de ce journal, le secrétaire exécutif provincial du PNMLS Tanganyika, docteur Didier Kayenga, s'entretenait à Kalemie avec Paulé Mounanga. Fin de cette édition qui a été mise en onde par Mimi Kindou. Alain Irung l'a supervisé et coordonné. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.